Vous écoutez RTL.
La corne de rhinocéros vaut plus de 50 000 euros le kilo. C'est plus cher que l'or.
Avec sa corne au bout du nez et son armure de chevalier, il sort tout droit de la préhistoire. Faut vraiment le voir pour le croire.
Le rhinocéros.
La curiosité est un vilain défaut.
La corne de rhinocéros est composée de kératine, comme les ongles des humains ou les sabots des chevaux.
C'est deux ou trois dollars de force.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On vous raconte une guerre, la guerre du rhinocéros, ou comment des hommes ont décidé de faire la peau à ces animaux pour leurs cornes, juste leurs cornes. C'est l'enquête passionnante du magazine National Geographic. Bonsoir Corinne Soulet.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste pour ce mensuel. Aujourd'hui, on va commencer par ce chiffre qui est édifiant, ça permet vraiment de tout comprendre. Combien reste-t-il de rhinocéros sur Terre?
Alors il en reste 29 500. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du 19e siècle, il y en avait encore des centaines de milliers. Et voilà, 150 ans plus tard, à peine 30 000.
On peut être aussi précis parce que, justement, on sait qu'ils sont en danger et on les a comptabilisés précieusement, si j'ose dire.
Oui, tout à fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 70% de ces rhinocéros qui sont en Afrique du Sud.
Oui.
En fait, ils sont localisés vraiment de manière importante dans le sud de l'Afrique. Donc 70% en Afrique du Sud, mais également au Botswana, en Namibie, au Kenya, au Zimbabwe.
Quelques-uns en Asie aussi ?
Quelques-uns en Asie, en Inde, à Java ou à Sumatra. Voilà, c'est vraiment des endroits, il y a très peu d'endroits. Donc voilà, on les surveille comme lait sur le feu.
Bah oui.
Vous nous décrivez la bête? Ça ressemble à quoi un rhinocéros?
Un rhinocéros, on croise pas souvent. C'est une des stars des zoos, hein. On le voit. Bon, il y a cinq espèces, hein, donc ils sont un peu différents. Il y a le rhinocéros noir qui est plus petit, mais qui pèse entre 800 kilos et 1,4 tonne, en gros. Mmh. Et puis on a le rhinocéros blanc et l'unicorne qui excède de tonnes, hein, donc c'est énorme, hein, c'est vraiment des gros pachydermes.
Et alors aujourd'hui, ils sont en voie de disparition, ces rhinocéros, parce qu'ils sont braconnés, chassés?
Tout à fait. Alors, on parle beaucoup des éléphants qui sont chassés et braconnés pour l'ivoire. Eh bien, les rhinocéros aussi, ils sont chassés et braconnés pour leurs cornes.
Mais ça représente quoi, cette chasse? Puisqu'on disait, il reste 29 500 rhinocéros aujourd'hui dans le monde, sur la planète.
Hein,
c'est vraiment
planète,
un chiffre ridicule. Il meurt plusieurs rhinocéros par jour aujourd'hui, encore, malgré la chasse contre les braconniers, etc.
Tout à fait. Donc, pour vous donner une idée, en Afrique du Sud, on a le parc Kruger, le parc national Kruger, ouais, qui comptabilise 9000 rhinocéros. Et dans ce parc national, qui est pourtant protégé, avec des gardes armés, etc. Mmh. On a 2 à 3 rhinocéros qui sont tués par jour par des braconniers.
Alors, on les tue pour leurs cornes. Leur corne qui vaut de l'or, ça vaut combien une corne? Enfin, ça s'évalue par kilo, c'est ça? Par nombre de cornes? Quelle est la demande?
Alors, en fait, le journaliste qui a fait l'enquête a réussi à faire une estimation. Brian Christie, tout à fait. Donc, parce que ça se vend plutôt au marché noir. Hein, donc, en Afrique, ça se vendrait autour de 5 800 euros le kilo. Mais dès qu'on arrive en Asie, alors là, ça peut exploser et atteindre 50 000 euros. Donc,
ce qu'on entendait dans la mise en onde d'André Facetta en préambule de cette interview, ça veut dire qu'il y a des intermédiaires qui se gavent, pardon du terme, aux différentes étapes.
Tout à fait, c'est un réseau qui est comparable à un réseau de drogue, hein, tout simplement. Mmh. Hein, on est dans plusieurs pays, plusieurs acteurs.
Ça sert à quoi cette corne? Parce que vous parliez de la corne en ivoire des éléphants. Là, c'est de l'ivoire aussi, la corne? Alors, des rhinocéros?
C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, c'est ni de l'ivoire ni de l'os, c'est de la kératine. Alors, la kératine, on la connaît bien. En fait, c'est la protéine qui est dans nos cheveux, dans nos ongles. C'est ni plus ni moins qu'un énorme amas de kératine. Sur le papier, ça ne semble pas valoir grand-chose.
Donc, on pourrait, à la rigueur, récupérer les ongles et proposer la même chose aux clients qui payent 50 000 dollars pour avoir un kilo de corne de rhinocéros. Ça ferait le même effet, c'est ça?
Oui, c'est un peu ça. Mais en fait, il y a une demande. Il y a une demande précisément de corne de rhinocéros qui vient d'Asie, qui vient précisément du Vietnam et de la Chine.
Mais qu'est-ce qu'ils en font? Ça sert à quoi?
C'est très prisé en médecine traditionnelle. C'est simple. Il y a deux choses. D'une part, c'est considéré comme un signe extérieur de réussite. Donc, on l'offre en cadeau, quelque chose, voilà, un cadeau exceptionnel.
De précieux et de rare.
Précieux et de rare. D'autre part, bah, c'est la panacée. C'est la panacée parce que en médecine traditionnelle, ça, c'est censé tout guérir. Du cancer au saignement de nez, en passant par la gueule de bois. Et
c'est très bon pour la libido aussi, je lis dans cet article.
Voilà, il paraît que c'est un super aphrodisiaque. D'accord. C'est très précisé pour ça. En fait,
donc
ça
quand ça soigne tout, ça soigne rien, en fait, hein, en général. C'est, ça s'appelle de la poudre de perlin de pimpin. Donc, ouais. Mais on est dans une croyance ancestrale, c'est
tout
ça.
Tout à fait. On a une seule étude en fait qui va un peu dans le sens d'un effet. C'est une étude qui est parue dans les années 90, des chercheurs hongkongais qui ont prouvé en fait que la crème de rhinocéros avait un effet antipyrétique, c'est-à-dire qui contrait la fièvre. Mais d'une part, c'était chez des rats et en plus à des concentrations qui étaient 100 fois plus élevées que ce qu'on donne habituellement aux humains.
Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. On dit le rhinocéros est en danger. Il reste moins de 30 000 individus sur la planète et on continue de le chasser. C'est légal, c'est interdit, c'est...
Alors, le commerce international de la corne a été interdit en 1977 par la CITES, qui est la Convention du commerce international des espèces menacées d'extinction. Donc, cette CITES, elle regroupe 182 pays, donc sur le papier, c'est interdit. Mais il y a des failles dans la législation, et notamment des failles nationales en Afrique du Sud.
Par exemple, si on a un permis de chasse sportive, c'est ça ? On peut chasser le rhinocéros et on peut repartir avec son, entre guillemets, sa récompense, c'est ça, donc la corne ?
Tout à fait, ça devient un trophée. Donc jusqu'à 2003, ça a été vraiment, c'était permis. On avait un permis de chasse sportive, on chassait le rhino et on emportait son trophée à l'étranger.
Dans un instant, on vous raconte l'insoutenable, comment les cornes de rhinocéros sont coupées. Quelle souffrance pour l'animal ? A tout de suite, les curieux sur RTL.
La curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, 20h-22h sur RTL. Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ils étaient des centaines de milliers en Afrique et en Asie. Il ne reste que 29 500 rhinocéros sur Terre. Chaque jour, 4 d'entre eux sont tués pour leur corne qui fournit... il faut le dire, une poudre de perlimpinpin aux Chinois et aux Vietnamiens. Mais c'est culturel, c'est traditionnel, ils y croient. C'est le magazine National Geographic qui consacre un dossier à ce sujet. Et c'est la journaliste Corinne Soulet qui nous décrypte cette guerre. Le journaliste qui a mené l'enquête, on l'a dit, il s'appelle Brian Christie. Il s'est rendu en Afrique du Sud, dans ce parc Kruger dont vous nous parliez. Alors sa particularité, c'est quoi ? C'est d'y trouver un grand nombre de rhinocéros, c'est ça ?
Oui, tout à fait. En fait, il y a 9 000 rhinocéros dans ce parc. Donc, c'est vraiment l'endroit où on trouve le plus de rhinocéros en Afrique du Sud et même dans le monde.
Il y a d'autres animaux sauvages dans ce parc ?
Il y a d'autres animaux sauvages, mais voilà, sa spécificité, c'est vraiment le rhino.
Donc, on imagine un parc national avec beaucoup de gardiens.
Tout
on est d'accord. Et malgré tout, des braconniers qui réussissent à passer. Ils viennent d'où, ces braconniers ?
Alors, on a un parc, effectivement, avec beaucoup de gardiens, mais on a aussi un parc qui fait 350 km de long.
Ah oui.
Donc, qui est difficile à protéger, hein, quand même. Et qui donne sur une frontière, sur la frontière mozambicaine. Donc, voilà, la plupart des braconniers, en fait, se faufilent à travers cette frontière, armés de Kalachnikov, et viennent tuer donc les rhinocéros. Donc on disait
plusieurs par jour.
Deux à trois spécimens par jour.
Une fois qu'ils ont tué ces braconniers leur proie, les rhinocéros, comment ils prélèvent la corne ?
Ils la prélèvent à coups de machette. Hein.
Ça s'appelle plus prélever.
Ouais. Oui, ouais. Le but c'est de ramener le maximum de cornes en fait. Donc ils vont prélever vraiment à la base de la corne.
Et alors le problème c'est que normalement la corne de rhinocéros ça repousse, mais si c'est coupé à la machette et trop près de la tête. Là, ça pose un gros problème.
Voilà. Enfin, de toute façon, généralement, malheureusement, les rhinocéros qui s'attaquent...
Certains sont déjà morts.
Ils sont laissés pour morts. Mais effectivement, l'autre gros problème, c'est que si on peut encore sauver certains spécimens, le fait d'avoir coupé... c'est comme l'ongle, hein, tout simplement. Hein, on vous coupe l'ongle au bout de l'ongle, ça vous fait pas mal. Au niveau de la matrice, c'est un peu plus douloureux. Vous pouvez imaginer une corne de rhinocéros. Ça laisse un trou béant qui non seulement est douloureux, mais extrêmement grave. Enfin, on le montre hein, sur les
photos. Oui, quand on voit les photos, elles sont répugnantes. Hein,
on voit un animal amputé, quoi, comme amputé du nez. Enfin,
c'est vraiment un trou béant, ça laisse un trou béant.
Ces braconniers qui viennent essentiellement du Mozambique, donc frontière entre le Mozambique et l'Afrique du Sud, ils sont armés de Kalachnikov. il tue les rhinocéros tout simplement. Il pourrait presque, allez, si on était dans un monde idéal, il pourrait les endormir et prélever simplement une partie de la corne et laisser la bête vivante, non ?
Tout à fait. Bah, c'est ce qui est fait par ce que prônent finalement des fermiers qui ont eux-mêmes des élevages de rhinocéros et qui prélèvent correctement la corne de manière sécurisée, saine et non douloureuse. Mais là ils sont pas là. Il faut qu'ils fassent vite. Pour vous donner une idée du risque qu'ils prennent. C'est dans le meilleur des cas 12 ans de prison s'ils se font prendre, dans le pire des cas ils se font tuer. Et entre 2010 et 2015, on a eu quand même 500 braconniers mozambicains qui ont été tués.
Ils sont abattus dans le parc, le parc national,
tout à fait.
Par les gardiens.
Tout à fait. C'est une espèce en voie d'extinction et en plus c'est un marché juteux. Voilà.
Donc c'est pour ça qu'on pouvait. Sidonie disait c'est une guerre. Donc c'est une guerre aussi que mènent les gardiens contre les braconniers, très clairement.
Oui, oui, tout à fait. C'est des moyens considérables qui sont mis en œuvre pour contrer ces braconniers. C'est des hélicoptères, c'est c'est ce qu'on disait, des gardiens qui sont constamment qui arpentent le parc. C'est pareil chez les particuliers, les fermiers qui ont eux-mêmes des rhinocéros. C'est vraiment un budget colossal. Hein.
Comment réagissent les rhinocéros quand ils sont blessés? Vous décrivez leur réaction, les bruits qu'ils font.
Alors oui,
ce que ça attire.
C'est assez difficile. Enfin, le journaliste qui est allé sur place le décrit très bien. Ils mugissent pas en fait. C'est pas violent. C'est une mélopée, une lente mélopée funèbre finalement. Et ce qui est terrible, c'est que déjà, je pense que ça doit être assez prenant si on est sur place, mais c'est que ça peut attirer les petits. Et dans ces cas-là, les braconniers n'y vont pas par quatre chemins. Ils s'en prennent aussi aux petits. Les petits ont un peu de corne. Ils les tuent en coupant leur colonne vertébrale à la machette pour économiser une balle, finalement. Et ils prélèvent directement la corne au couteau. Donc, c'est assez impressionnant.
Et ces petits, et les petits qui survivent, qui arrivent à s'échapper, ou certains rhinocéros qui arrivent à survivre, ils sont quoi ? Orphelins ? Et là, c'est le monde qui s'effondre, parce qu'ils ne sont rien, en fait, sans leurs parents.
Tout à fait. Donc, on a des associations, évidemment, qui luttent pour aider ces orphelins, effectivement. Donc, on a Care Wide of Africa, qui... on le voit, on a une photo dans le magazine où on voit ce vétérinaire qui enlace un petit rhinocéros qui vient d'être opéré pour justement soigner ce fameux trou béant qui a laissé le décornage. Et c'est une association qui est spécialisée vraiment dans les soins pour les animaux blessés et orphelins.
C'est un tel business que c'est assez complexe en fait. C'est-à-dire que y a ces braconniers, il y a ces gardiens. Est-ce qu'il y a des complicités pour que les braconniers puissent œuvrer un peu plus tranquillement ? Et est-ce qu'il y a des gardiens qui sont parfois, je ne sais pas, arrêtés eux-mêmes ?
Alors, c'est on disait, c'est vraiment un marché juteux. Donc, tout le monde a envie de croquer la pomme. Donc, effectivement, il y a sans doute des complicités dans la police. Il y a vraiment, je pense, une corruption assez importante dans tout ce réseau.
Alors, ce qui est aussi étonnant, Corinne Soulet, dans cet article, c'est qu'on découvre que ce parc national de Kruger, donc qui est censé quand même protéger les rhinocéros et qui laisse passer des centaines de braconniers qui tuent et vont arracher la corne de ces rhinocéros, ce parc national vend aussi certains de ces rhinocéros à des privés, à des fermiers, à des hommes d'affaires. Sous quel prétexte ? Pourquoi faire ?
Alors, ça semble assez paradoxal parce que ces fermiers, ils vont faire une utilisation commerciale de ces rhinocéros, soit pour des safaris photos, soit pour qu'ils puissent enlever la corne, mais de manière...
des safaris tout court ?
Voilà, voire des safaris tout court, donc ça veut dire des chasses, ni plus ni moins. Donc, c'est vrai que ça semble paradoxal. En fait, le parc Kruger, il a du mal à protéger ces rhinocéros. Il estime que ça peut sauver les... Déjà qu'en vendant ces rhinocéros, les fonds qu'il en retire, il en profite pour faire des programmes de protection, de préservation de l'espèce. Et par ailleurs, il se dit qu'il y aura plus de facilité à ce que les animaux se reproduisent s'ils se retrouvent dans une ferme un peu choyée, etc. Même s'il y a de la chasse, il compte quand même sur les naissances qui vont contrer voilà, ces pertes. Quoi.
Mmh. Est-ce qu'il y a des, je sais pas si c'est le bon terme, des cliniques pour les rhinocéros qui ont été blessés? Vous nous avez décrit cette photo d'une vétérinaire. Ça, ça aussi, c'est une activité importante.
Alors, il y a des associations, il y a des vétérinaires. On le voit là, il y a une très belle photo là aussi d'un vétérinaire qui tente finalement une alternative thérapeutique, une nouveauté. En finalement mettant des bandes de caoutchouc, c'est au niveau du trou béant. Mmh.
Parce qu'il faut reboucher ce trou finalement. Ouais. Parce que c'est à vif, on voit la photo, il a plus de nez, on voit des organes, quoi. C'est rouge, rouge sang.
Donc là, la seule solution, c'est de boucher pour permettre la cicatrisation. Et là, donc il y a des vétérinaires qui œuvrent pour trouver de nouveaux traitements.
On se rend pas forcément bien compte, mais c'est un trafic de. C'est un trafic qui rapporte des millions, des milliards peut-être pas quand même, mais c'est un énorme trafic. Il y a une mafia autour de cette vente de cornes de rhinocéros, en Asie notamment.
Oui, tout à fait. En fait, il y a une opération qui a été menée dernièrement là, par plusieurs pays, qui s'appelle l'opération Crash, et qui a vraiment mis en lumière un trafic, mais ce que je disais tout à l'heure, digne d'un trafic de drogue. C'est-à-dire qu'ils ont pu proposer 30 condamnations, et parmi les personnes condamnées, on a trouvé des antiquaires, des maisons d'enchères, un gang irlandais, un ex-associé du cartel de Medellin. On est vraiment dans le même type de trafic. Tout ça dans des pays différents et voilà, avec des acteurs à tous les niveaux de la chaîne.
Et puis on racontera tout à l'heure qu'il y a des gens en parallèle de cette action pour arrêter ces criminels qui luttent en fait pour légaliser cette vente de cornes de rhinocéros et en Afrique et dans le monde entier. D'ailleurs, juste après les infos, on va partir à la rencontre du boucher de Pratchig. C'est un millionnaire sud-africain qui élève et tue en toute impunité des dizaines de rhinocéros sur sa propriété.
Vous écoutez RTL.
Le rhinocéros, c'est un balourd, un vrai colosse.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
Il ne faut pas le déranger quand il décide de manger, car il pourrait bien vous charger et d'un seul coup vous embrocher.
Jusqu'à 22h.
Le rhinocéros, c'est un balourd, un vrai colosse.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le rhinocéros n'est pourtant pas le plus féroce.
Le rhinocéros, un colosse, certes, mais en voie de disparition, parce qu'ils ont une corne et que la poudre de cette corne est une promesse fausse, bien sûr, de bonheur, de bien-être. Les Asiatiques en raffolent. Qui sont les acteurs de cette guerre sans merci? C'est le récit du mensuel National Geographic avec la journaliste Corinne Soulé. Dans cet article, on rencontre un homme, vous l'appelez l'ennemi public numéro 1. On le surnomme aussi le boucher de Pratchig. Qui est-il? Il a l'air très sympa.
Non, en effet. C'est David Groenewald. C'est un millionnaire sud-africain qui a deux parcs énormes avec des rhinocéros, mais pas seulement. On y trouve des impalas, des antilopes, des gnous, des buffles. Et c'est une personne assez mégalo. Et surtout qui est recherché et qui est sous le coup de 1872 chefs d'accusation concernant ce trafic de cornes illégales.
Donc ça en fait l'homme le plus recherché du monde pour trafic de cornes, c'est ça? L'ennemi public numéro 1.
Oui.
C'est quoi les chefs d'accusation?
On a en vrac abattage illégal de rhinocéros, trafic de cornes, braconnage, décornage illégal.
C'est costaud.
C'est costaud, voilà.
Les États-Unis demandent son extradition.
Oui, parce qu'en fait, donc ce monsieur, juste pour rappeler, donc c'est quelqu'un qui en toute légalité organise des safaris, des chasses sur ses terres. Comme je vous disais, il a des gibiers qui intéressent quand même pas mal de monde. Sauf qu'en fait, il se livre, son credo, c'est de dire, puisque ça m'appartient, j'en fais ce que je veux. Sauf qu'on a quand même sur ses terres des espèces menacées d'extinction, comme le rhinocéros. et qui, dont les conditions de chasse sont quand même très strictes. Et ce monsieur va à l'encontre de, tout, de toutes ces conditions strictes. Donc, il est recherché aux États-Unis parce qu'en fait, il a dupé une douzaine de chasseurs américains qui venaient chez lui pour chasser des animaux, qui, mais pas le rhinocéros. Et puis, sur place, il leur a les a amenés vers un rhino en leur disant, bon, voilà, il pose un peu problème, si vous voulez, pour 10 000 euros, ce qui est beaucoup moins cher que ce qui est pratiqué sur le marché, vous pouvez tuer ce rhinocéros. Et donc, il a fait tuer par des Américains, illégalement, des rhinocéros. Les Américains ont pu se prendre en photo avec leur proie. En revanche, c'est lui qui a gardé les cornes. Ce qu'il en a fait, on ne sait pas vraiment. Mais comme on retrouve un peu sa trace dans le trafic illégal, on se dit qu'il a dû la revendre.
Mais comment ça se fait ? Pardon, il y a un truc que je ne comprends pas. Il est sous le coup de près de 2000 chefs d'accusation, 1872. Et il est toujours en liberté, on le voit dans votre magazine, dans National Geographic, posé fièrement. Il est protégé
à côté de bêtes empaillées.
Oui, tout à fait.
Qui le protège ? Comment est-il protégé ?
En fait, il s'est protégé tout seul parce que finalement, la plainte a été gelée, tout simplement parce que lui attaque en retour et lance une procédure judiciaire pour faire autoriser. Justement le commerce international de cornes.
Alors ces rhinocéros, il en fait ce qu'il veut, il organise des safaris. Qu'est-ce que la police sud-africaine a trouvé en 2010 ? Ils ont fait une descente dans une de ses grandes propriétés à ce millionnaire. Voilà. Et là, ils font une découverte macabre.
Tout à fait. Donc il y a vraiment une unité d'élite qui est descendue sur le terrain, qui est arrivée, qui a fait une découverte, ce que vous disiez, macabre. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé 29 rhinocéros, tous décornés, à vif, hein, on l'a dit, hein, pour faire ça de manière non douloureuse, il faut pas le faire à la base. Là, c'était très clairement très, très près de la base, près du crâne, et surtout dans une fosse des cadavres, hein, des cadavres et des squelettes de rhinocéros.
David Kroenwald, c'est comme ça qu'il s'appelle, ce millionnaire sud-africain, a aussi acheté des rhinocéros au parc national de Kruger. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a prétexté ? La protection des animaux ?
Tout à fait. On disait tout à l'heure, en fait, les parcs sont tellement, ont tellement de problèmes pour protéger correctement leur cheptel de rhinocéros qu'ils vont avoir tendance à les vendre. Ce monsieur est millionnaire, il peut se permettre d'acheter des rhinocéros et son activité finalement de safari est légale. Il a une entreprise, mais sauf qu'en fait, les conditions de chasse sont très strictes. C'est-à-dire qu'avant 2003, il y avait une faille dans la législation. Tout le monde, si on avait un permis, on pouvait tuer autant de rhinocéros qu'on voulait.
Donc permis de chasse sportive, et du coup, on pouvait tuer un rhino, d'accord.
Et on repartait, comme on disait tout à l'heure, avec la corne comme trophée. Oui. Sauf qu'il y a des trafiquants vietnamiens qui sont engouffrés dans cette faille, dans cette brèche législative, et qui ont pris des prête-noms, même le nom de prostituées comme détentrices de permis de chasse, etc., et qui ont abusé et qui ont donc ramené beaucoup de cornes et ça a alimenté le trafic. 2003, l'Afrique du Sud arrête les dégâts, renforce la législation. Et dit maintenant, à partir de maintenant, les prix sont limités à un rhinocéros par an, par personne. Plus de chasseurs vietnamiens. Il faut un observateur officiel à chaque prise. Et puis on marque avec une puce électronique les cornes qui sont prélevées.
Et alors aujourd'hui, ce millionnaire David Kroenwald, lui, il milite pour qu'on puisse légaliser ce commerce des cornes et en Afrique et dans le monde. C'est son rêve ultime. Comment il milite ?
Ben donc il fait une action, pour autoriser ce commerce, mais il n'est pas le seul. Il y a ce monsieur donc qui est sous le coup de chef d'accusation, mais il y a aussi d'autres hommes d'affaires, d'autres fermiers qui militent de la même façon et de manière plus légale.
On va raconter l'histoire de l'un d'entre eux. Il s'appelle John Hume. Lui, il élève en quelque sorte les rhinocéros pour prélever leurs cornes et il attend que ce soit légalisé. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Le trafic de cornes de rhinocéros, il est interdit, mais il est bien réel. Chaque année, des centaines d'animaux se voient arracher leurs cornes pour des vertus imaginaires, du sang pour de la poudre de perlimpinpin. C'est l'enquête du magazine National Geographic et on est en compagnie de la journaliste Corinne Soulet. Donc on parlait de l'ennemi public numéro un en Afrique du Sud, ce milliardaire sud-africain. Alors on va aller voir un autre personnage qui lui aussi milite pour la légalisation de la vente de cornes de rhinocéros. Il s'appelle John Hume. Qui est-il ?
Alors, John Hume, il est bien plus sympathique que David Grunewald, déjà.
C'est pas dur.
Voilà. C'est le plus gros éleveur de rhinocéros au monde, finalement. Dans son parc, il a 1300 bêtes, donc c'est énorme. Et lui aussi, finalement, comme David Grunewald, milite pour que le commerce de la corne soit autorisé.
Alors attendez, il faut comprendre ce qu'il fait, parce qu'il est plus sympa, il a un parc. C'est pour vraiment prendre soin des rhinocéros, pas de cornes prélevées dans le parc de ce bonhomme ?
Alors si, justement. En fait, il se dit un peu... il élève les rhinocéros un peu comme on élèverait des vaches. Il a son cheptel. Et ce qu'il faut savoir, donc on a comparé tout à l'heure... la corne de rhinocéros a un gros ongle. Hein,
parce que c'est de la kératine.
C'est de la kératine, on le rappelle. Hein, rien d'autre, hein, pas de propriété médicinale. Il y a eu des études là-dessus qui ont montré que il n'y avait que de la kératine. Et nous, nos ongles poussent. Et la corne de rhinocéros, elle pousse aussi. En un an, on gagne 2 kilos de corne. Elle pousse de 10 cm. Et John Hume, lui, ce qu'il fait, c'est que tous les 20 mois, il va prélever la corne chez les individus qui
donc il les son parc. Il les anesthésie en fait.
Alors il fait ça très proprement, hein, donc faut imaginer, c'est pas comme si on anesthésie un chat, hein, c'est un rhinocéros,
ça pèse 2 tonnes, donc
c'est ça, c'est quand même un peu plus compliqué, donc une anesthésie, donc il faut 6 minutes pour que le gros pachyderme s'endorme tranquillement, et là il faut à peu près un quart d'heure pour que les personnes qui prélèvent la corne l'enlèvent à la tronçonneuse.
À la tronçonneuse.
Ah oui, c'est quand même important. Enfin, c'est quand même...
Mais c'est combien de bêtes par jour, par semaine qu'ils opèrent comme ça ?
C'est 10 à 15 bêtes par semaine. Et c'est fait, cette corne, elle est prélevée, comme on disait, de manière non douloureuse, donc pas du tout à la base, à plusieurs centimètres de la base de la corne. Et ensuite, ils remettent un remède pour que les rhinocéros se remettent sur pied tranquillement.
Il en fait quoi ?
Mais oui, il en fait quoi ? C'est interdit, on peut pas les vendre.
Et c'est vraiment un pari sur l'avenir, enfin sur un avenir hypothétique. C'est que ce monsieur se dit, un jour, en tout cas lui, il se bat pour ça, le commerce international de la corne va être à nouveau autorisé. Donc, il prélève tous les 20 mois ses cornes, il les puce, il les stocke dans un endroit tenu secret. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'à chaque décornage, c'est vraiment... C'est vraiment une unité d'élite qui va arriver pour mettre la corne dans un coffre-fort, repartir dans des 4x4 et le mettre dans un endroit tenu secret. Et ce monsieur, en tout, il a, a priori, dans son stock, 5 tonnes de corne de rhinocéros.
Combien de millions de...
Évalué à peu près 40 millions d'euros.
Si c'est 50 000 dollars le kilo, effectivement,
ça
fait beaucoup d'argent.
Oui, ça fait beaucoup d'argent, que ça. Hypothétique, puisque pour l'instant,
c'est un
il n'a pas le droit de les vendre.
Alors, comment il gagne sa vie il montre ses rhinocéros, il en vend quelques-uns.
Alors lui, c'est pareil, hein, il a une utilisation commerciale des rhinocéros, sans doute des safaris, on n'en sait pas davantage, mais ce qu'il essaye de faire, il y a quelque chose qui est autorisé, alors pas la vente de la corne, mais quelque chose est autorisé, c'est la vente de rhinocéros à l'étranger. Et donc lui, il essaye de vendre ses bêtes à l'étranger, notamment il était en pourparlers avec... une société vietnamienne pour vendre une centaine de bêtes sur son cheptel de 1300 quand même. C'était pour créer une sorte d'énorme zoo safari, le plus grand du monde. Finalement, ça a été refusé. Cette affaire a été refusée par le gouvernement d'Afrique du Sud, qui depuis quelques années, face à la recrudescence de braconnage, durcit les lois. Parce qu'il faut rappeler quand même, pour vous donner une idée de l'explosion du braconnage, on a parlé tout à l'heure de 2 à 3 bêtes qui sont tuées chaque jour au parc Kruger, qui est le parc national. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2007, l'Afrique du Sud annonçait 13 décès de rhinocéros dus au braconnage. En 2015, on est passé à 1175. Donc ça a vraiment explosé ces 10 dernières années. Quoi.
On parle de guerre du rhinocéros aussi parce qu'il y a ceux qui sont pour la légalisation de ce commerce de cornes de rhinocéros et puis il y a ceux qui sont contre. Ceux qui sont pour, ils disent quoi ? Que si on légalise ce trafic, il y en aura moins finalement ? C'est une manière de protéger les rhinocéros ?
Oui, parce que quelqu'un comme Hume, il dit, voilà, moi j'ai 5 tonnes de cornes, je peux inonder le marché asiatique avec et puis voilà, il n'y aura plus besoin de braconnage, il y aura un marché légal. De l'autre côté, on a des ONG qui disent c'est faux. C'est faux parce que tant qu'il n'y aura pas de mesures anticorruption, anticriminalité mises en place, même avec un marché légal, on ne pourra pas arrêter le braconnage.
Il y a eu des exemples similaires avec d'autres espèces animales.
Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que les ONG qui sont contre cette autorisation du commerce des cornes, arguent toujours le même exemple, l'exemple de l'ivoire. En fait, en 2007, oui. La CITES avait autorisé
le commerce de l'ivoire d'éléphant.
Voilà, ouais. Temporairement, le commerce de l'ivoire d'éléphant pour 4 pays d'Afrique. 4 pays d'Afrique qui avaient dans leur stock 100 tonnes d'ivoire qui dormaient. Là aussi, c'était de l'ivoire prélevé sur des animaux morts ou qui étaient violents pour leurs congénères. Et la CITES a dit, bon, ok, on va voir ce que ça donne. On laisse ces 100 tonnes sur le marché. Voilà. Et en fait, ça a eu un effet pervers. Au contraire, c'est que au lieu d'inonder le marché asiatique et de finalement stopper la demande, là tout d'un coup, la demande a explosé et ça a complètement accéléré le braconnage. Pour tout vous dire, entre 2010 et 2012, chaque année, il y a eu 30 000 éléphants tués pour leur ivoire.
Merci beaucoup Corinne Soulet. Ce dossier passionnant est à lire dans le mensuel National Geographic. C'est un article de Brian Christie.
Vous écoutez RTL.